Sixième et dernière partie, chapitre 40. Toutefois, des jours de calme apparent leur étaient réservés encore. Il est vrai, juillet passa sans qu'il leur fût possible de se revoir, même de loin aux eaux douces. Juillet, qui est à Constantinople une saison de grand vent et d'orage, une période pendant laquelle le Bosphore, du matin au soir, se couvre d'écume blanche. Ce mois-là, c'est à peine si Jane Anne put lui écrire, tant elle était surveillée par une vieille tante revêche, venue d'Erivan pour faire une visite interminable, et qui ne supporterait pas de sortir en caïque si l'on n'était pas lisse comme un miroir. Mais la dame qu'André et ses trois amis appelaient Pestanum déguerpit au commencement d'août, et le reste de l'été, de leur dernier été, ne cessa plus d'être si beau. Août, septembre et octobre, c'est au Bosphore la saison délicieuse, où le ciel a des limpidités édéniques, où les jours déclinent, se recueillent et s'apaisent, même en gardant la splendeur. Ils redevinrent les habitués des eaux douces d'Asie et arrangèrent des entrevues à Stamboul, dans la maisonnette de Sultan Selim. Extérieurement, tout se retrouvait pour eux comme pendant l'été de 1904, même le voile noir baissé à demeure sur le visage de Jane Anne. Mais il y avait dans leurs âmes des sentiments nouveaux, des sentiments encore inexprimés, dont on n'était pas tout à fait certain, et qui cependant amenaient parfois au milieu de leurs causeries des silences trop lourds. Et puis, l'année précédente, il se disait « Oh, nous avons un autre été en réserve devant nous !» Tandis que maintenant, tout allait finir, puisqu'André quittait la Turquie en novembre, et constamment, il pensait à cette séparation prochaine qui leur apparaissait comme aussi définitive qu'une mise au tombeau. Étant de vieux amis, ils avaient déjà des souvenirs en commun, et ils formaient des projets pour recommencer avant l'inexorable fin, des choses d'antan, promenades ou pèlerinages faits naguère à eux quatre. Il faudrait tâcher de revoir ensemble, encore une fois dans la vie, notre petite forêt vierge de l'automne passé à Beikos. La tombe de Nélibé, il faudrait y retourner une suprême fois, nous tous. Pour André, qui cette année éprouvait la petite mort chaque fois que changeait le nom du mois, le matin du 1er septembre marqua un grand échelon franchi dans cette descente de la vie qui s'accélérait comme une chute. Il lui parut que, depuis la veille, l'air avait soudainement pris sa limpidité et sa fraîcheur de l'automne, et qu'il était plus sonore aussi, comme cela arrive d'habitude à l'arrière-saison. Mieux qu'hier, on entendait les trompettes turques, au timbre grave, qui sonnait en face sur la côte d'Asie où les soldats ont un poste à l'ombre des platanes de Beikos. L'été s'enfuyait décidément, et il songea avec un frisson que les colchiques violets allaient commencer de fleurir parmi les feuilles mortes dans la vallée du Grand Seigneur. Cependant, combien tout était radieux ce matin et quel calme inaltéré sur le Bosphore! Pas un souffle, et à mesure que montait le soleil, une tiédeur délicieuse. Sur l'eau passait maintenant une longue caravane de navires voiliers, remorqués par un bateau à vapeur, navires turcs d'autrefois avec des châteaux d'arrière aux peinturures archaïques, navires comme on n'en voit plus qu'en ces parages. Toutes toiles serrées, ils s'en allaient, docilement, ensemble, vers la mer Noire, dont l'entrée s'apercevait là-bas entre deux plans d'abruptes montagnes, et qui semblait une mer si tranquille et inoffensive pour qui ne l'eût point connue. Directement au-dessous de ses fenêtres, André regarda le petit quai ensoleillé, le long duquel de beaux caïques attendaient, entre autres le sien, qui ce soir le conduirait aux eaux douces. Les eaux douces. Encore cinq ou six fois reparaître là, en oriental, sur le ruisseau bordé de verdure, où il exerçait comme une petite royauté éphémère, et où les dames voilées reconnaissaient de loin la livrée de ses drameurs. Et beaucoup de jours encore, à s'asseoir, au baisser du soleil, sous les platanes géants du grand seigneur, à fumer là des narguilés au milieu d'une paix sans nom, tout en regardant la lente promenade des femmes, des ombres heureuses dans les lointains de la prairie élyséenne. Au moins 30 ou 35 jours d'été, un répit vraiment acceptable avant la grande fin, qui ne serait tout de même pas immédiate. Les collines d'Asie, ce matin-là, au-dessus de Beikos, étaient entièrement roses sous la floraison des bruyères, mais roses comme des rubans roses. Les maisonnettes des villages turcs qui s'avancent dans l'eau, les grands platanes verts aux branches desquels, depuis 300 ans, les pêcheurs suspendent leurs filets, tout cela et le ciel bleu se regardaient tranquillement dans la glace du Bosphore qui avait sa netteté des inaltérables beaux jours. Et ces choses ensemble paraissaient tellement confiantes dans la durée de l'été et du calme et de la vie et de la jeunesse qu'André, une fois de plus, s'y laissa prendre, oublia la date et ne sentit plus la menace des proches lendemains. L'après-midi, il alla donc aux eaux douces, où tout rayonnait dans une lumière idéale. Il y croisa ses trois amis et cueillit d'autres regards de femmes voilées. Il en revint par un incomparable soir en longeant la côte d'Asie. Vieille maison muette où l'on ne sait jamais quel drame se passe, vieux jardin secret sous les retombées de verdure, vieux quai de marbre très gardé, où d'invisibles belles sont toujours assises les vendredis pour assister au retour des caïques. Entraîné par la cadence vive de ses rameurs, il fendait l'air caressant et suave. Respirer était une ivresse. Il se sentait reposé. Il avait conscience d'être jeune d'aspect à ce moment, et en lui s'éveillait la même ardeur à vivre qu'au temps de sa prime jeunesse, la même soif de jouir éperdument de tout ce qui passe. Son âme, qui le plus souvent n'était qu'un obscur abîme de lassitude, pouvait ainsi changer sous le voluptueux enlogement des choses extérieures ou devant quelque fantasmagorie jouée pour ses yeux d'artiste. Changer, redevenir comme neuve, se sentir prête pour toute une suite d'aventures et d'amour. Il ramenait dans son caïque Jean Renaud, qui lui confiait, avec des plaintes brûlantes, sa peine d'être amoureux d'une belle dame des ambassades, très aimablement indifférente à son désir, et d'être amoureux en même temps de Jenan, qu'il n'avait jamais vu, mais dont la silhouette et la voix tremblaient sur son sommeil. Et André écoutait, sans hausser les épaules, de tels aveux, qui étaient bien dans le ton de cette soirée. Il se sentait au diapason avec ce jeune, et préoccupé uniquement des mêmes questions, tant le reste ne comptait plus. L'amour était partout dans l'air. Confidence pour confidence, il avait envie de lui crier dans une sorte de triomphe. « Eh bien, moi, tenez, je suis plus aimé que vous. » Ils continuèrent leur chemin sans plus se parler, chacun pour soi, égoïstement plongé dans ses pensées que dominait l'amour. Et la splendeur d'un soir d'été, sur le Bosphore, magnifiait leur rêverie. Auprès d'eux, les quais interdits des vieilles demeures continuaient de défiler. Des femmes, assises tout au bord, les regardaient glisser dans les rayons maintenant couleur de cuivre rouge et ne s'amusèrent d'eux-mêmes de savoir que, pour les spectatrices voilées, leur passage, leur caïque avec ses nuances rares, devait faire bien au milieu de cette apothéose de soleil couchant. Chapitre 41. Septembre vient de finir. Maintenant, la belle teinte rose des bruyères sur les collines d'Asie se meurt de jour en jour, se change en une couleur de rouille. Et dans la vallée de Béikos, les colchiques violets sont fleuris à profusion parmi l'herbe fine des pelouses. La jonchée des feuilles de platane, la jonchée d'or est partout répandue. Le soir, pour fumer son narguilé devant la cabane de quelqu'un de ces humbles petits cafetiers qui sont encore là, mais qui vont repartir, on choisit une place au soleil, on recherche la dernière chaleur de l'été déclinant. Ensuite, dès que les rayons commencent à raser la terre et que l'on voit comme un reflet rouge l'incendie sur l'énorme ramure des platanes, on sent une fraîcheur soudaine qui vous saisit et qui est triste. On s'en va et les pas sur l'herbe font bruisser les feuilles mortes. À présent, les grandes pluies d'automne qui laissent la prairie toute désentrempée alternent avec ces jours encore chauds et étrangement limpides, où les abeilles bourdonnent sur les scabieuses d'arrière-saison, mais où des buées froides s'exhalent du sol et des bois quand le soir tombe. Toutes ces feuilles jaunes par terre, André a déjà connu les pareilles, dans cette même vallée l'an passé. Et cela attache à un lien d'y avoir vu deux fois la chute des feuilles. Il sait donc que ce sera une souffrance de quitter pour jamais ce petit coin pastoral de l'Asie, où il est venu presque chaque jour, pendant deux étés radieux. Il sait aussi que cette souffrance, comme tant d'autres déjà éprouvées d'ailleurs, s'oubliera vite, hélas, dans les grisailles de plus en plus sombres d'un proche avenir. Toute l'année, il s'était vu dans l'impossibilité de refaire par ici aucune promenade ensemble, André et ses amis. Mais ils en avaient combiné deux, coûte que coûte, pour le 3 et 5 octobre, les dernières et les suprêmes. Le but fixé pour celle d'aujourd'hui, 3, était la petite forêt vierge découverte par eux en 1904. Et ils se retrouvèrent là, tous ensemble, au bord de ce marécage dissimulé comme exprès dans un recreux de montagne. Ils reprirent leur place de jadis sur les mêmes pierres moussues, près de cette eau dormante d'où sortaient des roseaux si grands et de si hautes fougères osmondes que l'on eût dit une sorte tropicale. André vit tout de suite qu'elle n'était pas comme d'habitude. Les pauvres petites ce soir, mais nerveuses et outrées, chacune à sa manière. Jenan, avec une affectation de froideur, Melek avec violence. « Maintenant, on veut nous remarier toutes, » dirent-elles pour rompre notre trio de révoltés. « Et puis nous avons des allures trop indépendantes à ce qu'il paraît, et il nous faut des maris qui sachent nous mater. » « Quant à moi, » précisa Melek, « la chose a été arrêtée en conseil de samedi, famille. » Et on a désigné le bourreau, un certain Omar Bey, capitaine de cavalerie, un bel âtre au regard dur, qu'on a cependant daigné me montrer un jour de ma fenêtre, donc ça ne traînera pas. Et elle frappait du pied, les yeux détournés, en froissant dans ses doigts toutes ses feuilles à sa portée. Il ne trouva rien à lui dire, et regarda les deux autres. À Zeyneb, le plus près de lui, il allait demander « Et vous ?» Mais il craignait la réponse qui devinait trop bien, le geste doux et navré qu'elle aurait pour lui indiquer sa poitrine. Et c'est à Jenan, comme toujours, la seule au voile baissé, qu'il posa la question « Et vous ?»« Oh, moi » répondit-elle, avec cette indifférence un peu hautaine, qui lui était devenu depuis quelques jours, moi, oh, il est question de me redonner à Hamdi. Et alors, qu'est-ce que vous ferez? Mon Dieu, que voulez-vous que je fasse? Il est probable que je me soumettrai. Puisqu'il en faut un, n'est-ce pas? Autant subir celui-là qui a déjà été mon mari. La honte me semblera moindre qu'auprès d'un inconnu. André l'entendit avec stupeur. L'épais voile noir l'empêchait du reste de lire dans ses yeux ce qu'il y avait de sincère ou non sous cette résignation soudaine. Ce consentement inespéré à un retour vers Hamdi, c'était ce qu'il pouvait souhaiter de meilleur pour trancher une situation inextricable. Mais d'abord, il y croyait à peine et puis il s'apercevait que ce serait plutôt un dénouement pour le faire souffrir. Ils ne dirent plus rien sur ces sujets qui brûlaient et un silence plein de pensées s'ensuivit. Ce fut la voix douce de Jenan qui, après, s'éleva la première, dans ce lieu si calme que l'on entendait l'une après l'autre tomber chaque feuille. Sur un ton bien détaché, bien tranquille, elle reparla du livre. « Oh !» dit-il, en essayant de n'être plus sérieux, « ah oui, c'est vrai, le livre !»« Depuis des temps, nous n'y pensions plus. Voyons, qu'est-ce que je vais raconter ?»« Que vous voulez aller dans le monde le soir et porter le jour des beaux chapeaux avec beaucoup de roses et de plumes dessus comme les dames Perrottes ?»« Non, ne soyez pas moqueur, André. Aujourd'hui, si près de notre dernier jour. » Il les écouta donc avec recueillement. Sans s'illusionner le moins du monde sur la portée de ce qu'il pourrait faire pour elle, il voulait au moins ne pas les présenter sous un jour fantaisiste, ne rien écrire qui ne fût conforme à leurs idées. Il lui parut qu'elles tenaient à la plupart des coutumes de l'islam et qu'elles aimaient infiniment leur voile à condition de le relever parfois devant des amis choisis et à l'épreuve. Le maximum de leurs revendications était qu'on les traitât davantage comme des êtres pensants, libres et responsables, qu'il leur fût permis de recevoir certains hommes, même voilés si on l'exigeait, et de causer avec eux, surtout lorsqu'il s'agissait d'un fiancé. Avec ces seules concessions, insista Jenan, nous nous estimerions satisfaites, nous et celles qui vont nous suivre pendant au moins un demi-siècle, jusqu'à une période plus avancée de nos évolutions. Dites-le bien, notre ami, que nous ne demanderions pas plus, afin qu'on ne nous juge point folles et subversives. D'ailleurs, ce que nous souhaitons là, je défie que l'on trouve dans le livre de notre prophète un texte un peu formel qui s'y oppose. Quand il prit congé d'elle, le soir approchant, il sentit la petite main que lui tendait Melek brûler comme du feu. « Oh !» lui dit-il, effrayé, « mais vous avez une main de grande fièvre. »« Oui, depuis hier, une fièvre qui augmente. Tant pis hein, pour le capitaine Omar Bey. Et ce soir, cela ne va pas du tout. Je sens une lourdeur dans la tête, une lourdeur. Il fallait bien que ce fût pour vous revoir, sans quoi je ne me serais pas levé aujourd'hui. » Et elle s'appuya au bras de Jenan. Une fois arrivés dans la plaine, ils ne devaient plus avoir l'air de se connaître. Dans la plaine tapissée de fleurs violettes et jonchée de feuilles d'or, puisqu'il y avait là d'autres promeneurs et des groupes de femmes, toujours ces groupes harmonieux et liants qui viennent le soir peupler la vallée des Béikos. Comme d'habitude, André de loin les regarda partir, mais avec le sentiment, cette fois, qu'il ne reverrait plus jamais cela, jamais. Alors, dorées par le soleil d'automne, ces trois petites créatures de transition et de souffrance, ayant leurs aspects d'ombre païenne et s'éloignant au fond de cette vallée du repos, sur ces fines pelouses qui n'ont pas l'air réelles, l'une dans ses voiles noires, les deux autres dans leurs voiles blancs. Quand elles eurent disparu, il se dirigea vers les cabanes de ces petits cafetiers turcs qui sont là sous les arbres et demanda un narguilé, bien que déjà la fraîcheur du soir d'octobre eût commencé de tomber. Dans un dernier rayon de soleil, contre l'un des platanes géants, il s'assit à réfléchir. Pour lui, un effondrement venait de se faire. Cette résignation de Jenan avait anéanti son rêve, son dernier rêve d'Orient. Sans bien s'en apercevoir, il avait tellement compté que cela durerait après son départ de Turquie. Une fois séparé de lui, ne le voyant plus vieillir, elle lui aurait gardé longtemps, avait-il espéré, cette sorte d'amour idéal qui ainsi serait resté à l'abri des déceptions par lesquelles meurt l'amour ordinaire. Mais non, reprise maintenant par ce Hamdi, qui était jeune et que sans doute elle n'avait pas cessé de désirer, elle allait être tout à fait perdue pour lui. « Elle ne m'aimait pas tant que ça, » songeait-il. « Je suis encore bien naïf et présomptueux. » C'était très gentil, mais c'était de la littérature. Et c'est fini, ou plutôt, cela n'a jamais existé. J'ai l'âge que j'ai, voilà d'ailleurs ce que ça prouve. Et demain, ni pour elle ni pour aucune autre, je ne compterai plus. Il restait le seul fumeur de narguilé en ce moment sous les platanes. Décidément, c'était passé, la saison des beaux soirs tièdes, qui amenait lors dans cette vallée tant de rêves d'alentour. Ce soleil oblique et rose n'avait plus de force. Il faisait froid. Bon, je m'obstine à vouloir prolonger ici mon dernier été, se disait-il. Mais c'est aussi vain et absurde que de vouloir prolonger ma jeunesse. Le temps de ces choses est révolu à jamais. Maintenant, le soleil s'était couché derrière l'Europe voisine, et dans le lointain, les chalumeaux des bergers rappelaient les chèvres. Autour de lui, cette plaine, devenue déserte sous ses quelques grands arbres jaunis, prenait cet air tristement sauvage qu'il lui avait déjà connu à l'arrière-saison d'antan. Tristesse du crépuscule et des jonchées de feuilles sur la terre, tristesse du départ, tristesse d'avoir perdu Jenan et de redescendre la vie. Tout cela ensemble n'était plus tolérable et disait trop l'universel mort. Chapitre 43. Il venait d'imaginer, depuis quelques jours, un moyen très ingénieux de correspondre pour les cas d'urgence. Une de leurs amies, appelée Kiamouran, avait autorisé André à contrefaire son écriture, très connue de la domesticité soupçonneuse, et à signer de son nom. De plus, elle avait fourni plusieurs enveloppes à son chiffre, avec l'adresse de Jenan mise de sa propre main. Il pouvait donc leur écrire ainsi, âme au couvert cependant par crainte des indiscrétions, et son valet de chambre, qui avait pris l'habitude du fez et du chapelet, allait porter cela directement au Yali des trois petites coupables. Parfois même André l'envoyait à une heure précise et convenue d'avance. L'une de ses trois amies se trouvait alors comme par hasard dans le vestibule, d'où les nègres venaient d'être écartés et pouvaient donner une réponse verbale au messager si sûr. Le lendemain, donc, il risqua une de ses lettres signées Kiamouran pour s'informer de la fièvre de Melek et demander si la promenade à la mosquée de la montagne tiendrait toujours. Et il reçut le soir un mot de Jenan disant que Melek était couché avec beaucoup plus de fièvre et que les deux autres ne pourraient s'éloigner d'elle. Seul, il voulut la faire quand même, cette promenade, le 5 octobre, jour qu'ils avaient fixé pour monter là une dernière fois ensemble. Et c'était par un temps merveilleux de l'automne méridional. Les bois sentaient bon, les abeilles bourdonnaient. Aujourd'hui, il se croyait moins attaché à ses petits amis turcs, même à Jenan. Et il avait conscience qu'il se reprendrait à la vie ailleurs, où elle ne serait pas. Il lui semblait aussi qu'au départ, son regret maintenant serait moins pour elle que pour l'Orient lui-même, pour cet Orient immobile qu'il avait adoré depuis des années de prime jeunesse, et pour le bel été d'ici qui s'achevait, pour ce recoin pastoral de l'Asie où il venait de passer deux saisons dans le calme des vieux temps, dans l'ombre des arbres, dans la senteur des feuilles et des mousses. Oh, le clair soleil encore aujourd'hui, et ses chênes, ses scabieux, ses fougères aux teintes rougies et dorées, lui rappelaient les bois de son pays, de France, à tel point qu'il retrouvait tout à coup les mêmes impressions que jadis, à la fin de ses vacances d'enfant, lorsqu'il fallait, à cette même époque de l'année, quitter la campagne où l'on avait fait tant de jolis jeux sous le ciel de septembre. Et à mesure qu'il se levait, cependant, par les petits sentiers de lichen et de bruyère, à mesure que se découvraient les lointains, s'en allait son illusion de France. Ce n'était plus cela, et la notion du pays turc s'imposait à la place. Les méandres profonds du Bosphore s'ouvraient à ses pieds, montrant les villages où les palais dérivent et les caravanes de bateaux de marche. Vers l'intérieur des terres, c'était aussi des aspects étrangers, une succession infinie de collines couvertes d'un même et épais manteau de verdure, des forêts trop grandes et tranquilles, comme notre France n'en connaît plus. Quand il atteignit enfin ce plateau, battu par tous les souffles du large, qui sert de péristyle à la vieille mosquée solitaire, quantité de femmes turques étaient assises là, sur l'herbe, venues en pèlerinage dans de très primitives charrettes à bœufs. Vite, dès qu'il fut aperçu, vite les mousselines enveloppantes s'abaissèrent pour cacher tous les visages. Et cela devint une muette compagnie de fantômes voilés qui se détachaient avec une grâce archaïque sur l'immensité de la mer Noire, soudainement apparue autour de l'horizon. André se dit alors que, pour lui, le charme de ce pays et de son mystère résisterait à tout, même à la déception causée par le Jénan, même au désenchantement du déclin de la vie. Chapitre 43. Le lendemain, qui tombait un vendredi, il ne voulut pas manquer d'aller aux eaux douces d'Asie, car c'était bien la dernière des dernières fois. Son contrat de la saison, pour le caïque et les rameurs, expirait ce soir-là même, et du reste, les ambassades redescendaient toutes à Constantinople la semaine suivante. Le temps du Bosphore touchait à sa fin. Et jamais jour de plein été ne fut si lumineux ni si calme. À part qu'il y avait moins de barques, peut-être, le long de la rive, déjà un peu délaissées, on aurait pu se croire à un vendredi du beau mois d'août. Par habitude, par attachement aussi, toujours et quand même, il fit passer son caïque sous les fenêtres closes du yali de ses amis. Le petit signal blanc était là, à son poste. Quelle inexplicable surprise! Est-ce donc qu'elles allaient venir? Là-bas, aux eaux douces, les prairies étaient couleur d'or autour de la gentille rivière, tant il y avait de feuilles mortes en jonchées, et les arbres disaient bien l'automne. Cependant, la plupart des caïques élégants, habitués de ce lieu, entraient l'un après l'autre, amenant les belles des harems, et André reçut au passage, encore une fois pour l'adieu final, des sourires discrets qui lui venaient de dessous les voiles. Longtemps il attendit, regardant de tous côtés, mais ses amis toujours n'arrivaient point, et la journée s'avançait et les promeneuses commençaient à se retirer. Il s'en allait donc lui aussi, et il était presque à la sortie de la rivière lorsqu'il vit poindre dans un beau caïque à livrée bleue et or une femme seule, la tête enveloppée du yamak blanc qui laisse paraître les yeux. Des coussins sans doute l'élevaient, car elle semblait un peu grande et haute sur l'eau, comme s'étant arrangée ainsi pour être mieux vue. Ils se croisèrent, et elle le regarda fixement. « Jénan !» Ses yeux couleur de bronze vert et ses longs sourcils roux, que depuis une année elle lui avait cachés, n'étaient comparables à aucun et ne pouvaient être confondus avec d'autres. Il frissonna devant l'apparition si imprévue qui se dressait à deux pas de lui. Mais il ne fallait pas broncher à cause des bateliers, et ils passèrent immobiles sans échanger un signe. Cependant, il fit retourner son caïque l'instant d'après pour la croiser encore tout à l'heure quand elle redescendrait le cours du ruisseau. Presque plus personne lorsqu'ils se retrouvèrent près l'un de l'autre dans ce croisement rapide. Et à cette seconde rencontre, la figure qu'enveloppait le yacmac de mousseline blanche se détacha pour lui sur les cyprès sombres et les stèles d'un vieux cimetière qui est posé là au bord de l'eau, car dans ce pays les cimetières sont partout, sans doute pour maintenir plus présente la pensée de la mort. Le soleil est déjà bas et ses rayons devenus roses, il fallait s'en aller. Leurs deux caïques sortirent presque en même temps de l'étroite rivière et se mirent à remonter le Bosphore dans la magnificence du soir, celui d'André à une centaine de mètres derrière celui de Djenan. Il la vit de loin mettre pied sur son quai de marbre et rentrer dans son yali sombre. Ce qu'elle venait de faire hors d'Isa est très long. Seul, être allé aux eaux douces, de plus, y être allé en yachmak, afin de montrer ses yeux et d'engraver l'expression dans la mémoire de son ami. Mais André, qui d'abord avait senti tout ce qu'il y avait là de particulier et de touchant, se rappela soudain un passage de Médger où il racontait quelque chose d'analogue à propos d'un regard solennel échangé dans une barque au moment de la séparation. C'était très gentil de sa part, se dit-il donc tristement, mais c'était encore un peu littéraire. Elle voulait imiter Denjibé. Cela n'empêchera pas, dans quelques jours, de rouvrir les bras à son Hamdi. Et il continua de remonter le Bosphore en longeant de tout près la rive d'Asie. Déjà, beaucoup de maisons vides, hermétiquement closes. Beaucoup de jardins aux grilles fermées, sous l'enchevêtrement des vignes vierges couleur de pourpre. Partout s'indiquait l'aurore, le départ, la fin. Çà et là, sur ces petits quais où il est si défendu d'aborder, quelques femmes attardées à la campagne étaient encore venues s'asseoir au bord de l'eau pour ce dernier vendredi de la saison. Mais leurs yeux, tout ce qu'on voyait de leur visage, exprimait la tristesse du retour si prochain au harem de la ville, l'appréhension de l'hiver. Et le soleil couchant éclairait toute cette mélancolie comme un feu de Bengale rouge. Lorsqu'André fut rentré dans sa maison de Therapia, ses rameurs vinrent lui présenter leur selam d'adieu. Ils avaient repris leurs humbles coutumes et chacun rapportait, soigneusement plié, sa belle chemise en gaze de brousse et sa belle veste de velours capucine. Il rapportait aussi le long tapis en velours de même couleur, recommandant, avec naïveté, de bien le faire sécher parce qu'il était imprégné d'humidité salée. André regarda ses pauvres loques, où les broderies d'or avaient commencé de prendre, sous les embruns et le soleil, la patine des vieilles choses précieuses. Qu'en faire? Les détruire, ne serait-ce pas moins triste que de les rapporter dans son pays pour se dire plus tard, dans l'avenir morne, en retrouvant ses reliques fanées de plus en plus. C'était la livrée de mon caïque, jadis, du temps lumineux où j'habitais au Bosphore. Le crépuscule arrivait. Il prit son domestique turc, celui qui était un ancien berger d'Eschichéhir, de prendre sa flûte au son grave et de rejouer l'air de l'an dernier. L'espèce de fugue sauvage qui exprimait maintenant pour lui tout l'indicible d'une fin d'été dans ce lieu et dans ces circonstances spéciales. Puis s'étant accoudé à sa fenêtre, il regarda partir son caïque dont les rameurs étaient redevenus de pauvres bateliers et qui allait redescendre par étapes vers Constantinople pour s'y louer à un nouveau maître. Longtemps, il suivit des yeux, sur l'eau de plus en plus couleur de nuit, cette longue chose blanche effilée, dont la disparition dans les grisailles crépusculaires représentait pour lui la fuite pareille de deux étés d'Orient. Chapitre 44. Le samedi 7 octobre, au dernier jour du Bosphore, il reçut un mot de Ljenan, le prévenant que Melek avait toujours plus de fièvre, que les aïeuls étaient inquiètes et que l'on rentrait en ville aujourd'hui même pour une consultation de médecin. Toutes les ambassades aussi pliaient bagages. André brusqua ses préparatifs de départ pour avoir le temps de passer encore une fois sur la rive d'Asie en face avant la tombée de la nuit et faire ses adieux à la vallée du Grand Seigneur. Il y arriva tard, sous un ciel où couraient de gros nuages sombres qui jetaient en passant des gouttes de pluie. La vallée était déserte et depuis la veille, les petits cafés sous les arbres avaient déménagé. Il dit adieu à deux ou trois humbles âmes en turban qui habitaient là dans les cabanes. Ensuite un bon chien jaune et un bon chat gris, petites âmes aussi de cette vallée, qu'il avait connues pendant deux saisons et qui semblaient comprendre son définitif départ. Et puis il refit, au petit pas de funérailles, le tour de ces tranquilles prairies encloses, désertes ce soir, mais où les voiles de ses amis avaient si souvent frôlé l'herbe fine et les fleurs violettes des colchiques. Et cette promenade le retint jusqu'à l'heure semi-obscure où les étoiles s'allument et où commencent de s'entendre les premiers aboiements des chiens errants. Au retour de ce pèlerinage, quand il se retrouva sous les énormes platanes de l'entrée, qui forment là une sorte de bocage sacré, il faisait déjà vraiment noir, et les pieds butaient contre les racines, allongés comme des serpents sous les amas de feuilles mortes. Dans l'obscurité, il revint au petit embarcadère, dont chaque pavé de granit lui était familier, et monta en caïque pour regagner la côte d'Europe. Le vent a hurlé toute la nuit sur le Bosphore, ce vent de la mer Noire dont la voix lugubre s'entendra bientôt d'une façon presque continue pendant 4 ou 5 mois d'hiver. Et ce matin, il y a redoublement de rafales qui viennent secouer la maison d'André pour ajouter à la tristesse de son dernier réveil à Therapia. « Eh bien, il en fait un temps !» lui dit son valet de chambre en ouvrant ses fenêtres. En face, sur les collines d'Asie, on voit des nuages bas et obscurs qui se traînent à toucher les arbres échevelés. Et c'est sous la tourmente sinistre, sous le coup de fouet des averses qui descendent aujourd'hui le Bosphore pour la dernière fois, passant devant le yali de ses amis, où déjà tout est fermé, calfeutré, des envolées de feuilles mortes dansant la farandole sur le quai de marbre. Le soir donc, il se réinstalle à Constantinople, pour si peu de temps avant le grand départ. Juste 50 jours, car il a décidé de rentrer en France par mer et de prendre le paquebot du 30 novembre. Ceci afin d'avoir une date fixée d'avance, inchangeable, à laquelle il faudra bien se soumettre. À une lettre de Ljenan, à la nuit tombante, lui apporte le verdict des médecins. Fièvre cérébrale, d'apparence tout de suite très grave. La pauvre petite Melek, sans doute, va mourir, vaincue par tant de surexcitation nerveuse, de révolte, d'épouvante, que lui a causé un nouveau mariage. Chapitres 45 et 46. Ces deux semaines de fin octobre, que dura l'agonie de Melek, furent de beau temps presque inaltérable et de mélancolique soleil. André, chaque soir, à la manière des écoliers, effaçait maintenant le jour révolu sur un calendrier où la date du 20 novembre était marquée d'une croix. Il vivait le plus possible à Istanbul, de cette vie turque si près de finir pour lui. Mais ici, comme au Bosphore, la tristesse de l'automne s'ajoutait à celle du départ si prochain. Il faisait déjà presque froid pour les rêveries, pour les narguilés de plein air, devant les saintes mosquées, sous les arbres qui s'effeuillaient. Naturellement, il ne voyait plus jamais ses amis, car Djenan Zeyneb ne s'éloignait pas de celle qui allait mourir. Sur la fin, elle mettait pour lui, au grillage d'une fenêtre, un imperceptible signal blanc qui signifiait « Elle vit toujours ». Et il était convenu qu'un signal bleu signifierait « Tout est fini ». Dès le matin donc, et ensuite deux fois dans la journée, lui-même ou son ami Jean Renaud ou son valet de chambre passaient par le cimetière de Kassim Pacha pour regarder anxieusement à cette fenêtre. Pendant ce temps-là, dans la maison de la petite mourante, où régnait un attentif silence, des imams, sur la requête des aïeuls, étaient constamment en prière. L'islam, le vieil islam, divinement berceur des agonies, enveloppait de plus en plus l'enfant révolté, qui cédait par degrés à son influence et s'endormait sans terreur. Du reste, le doute chez elle n'était qu'un mal encore comble. Curable, une greffe encore récente sur de longues réalités et héréditées de calme et de foi. Et voici que peu à peu, même les observances naïves, qui sont au Coran ce que chez nous les pratiques de Lourdes sont à l'Évangile, même les superstitions des deux vénérables aïeuls, ne choquaient plus cette petite incrédule d'hier, qui acceptait qu'on lui mît des amulettes et que ses vêtements fussent exorcisés par les derviches. On faisait bénir dans la mosquée d'Eyoub ses chemises d'élégantes qui venaient de chez le bon faiseur parisien, ou bien on les envoyait plus loin encore à Scutari, chez les saints hurleurs dont le souffle a le don de guérir tant qu'ils sont dans l'extase après leur long cri vers Allah. Quand finit le mois d'octobre, elle était depuis deux jours sans parole et probablement sans connaissance, plongée dans une sorte de brûlant et lourd sommeil que les médecins disaient tout proche de la mort. Chapitre 47. Le 2 novembre, Zeyneb, qui était de veille à son chevet, se retourna tout à coup frissonnante parce que du fond de la chambre demi-obscure, une voix s'élevait au milieu du si continuel silence, une voix très douce, très fraîche, qui disait des prières. Elle ne l'avait pas entendue venir, cette jeune fille au voile baissé. Pourquoi était-elle là, son Coran à la main? Ah oui, elle comprit tout de suite, la prière des morts. C'est un usage en Turquie, lorsqu'il y a dans une maison quelqu'un qui agonise, que les jeunes filles ou les femmes du quartier viennent à tour de rôle lire les prières. Elles entrent comme de droit, sans se nommer, sans lever leur voile, anonymes et fatales. Et leur présence est signe de mort, comme chez nous, celle du prêtre qui apporte l'extrême onction. Melek aussi avait compris. Et ses yeux, depuis longtemps fermés, se rouvrirent. Elle était arrivée à ce mieux plein de mystères qui, chez les mourants, survient presque toujours. Et elle retrouva un peu de sa voix que l'on aurait pu croire éteinte pour jamais. « Venez plus près, » dit-elle à l'inconnu, « je n'entends pas assez bien. Ne craignez pas que j'aie peur, venez, lisez plus haut. Que je ne perde pas. » Ensuite, elle voulut confesser elle-même la foi musulmane, et ouvrant dans la pose de la prière ses petites mains de cire blanche, elle répéta les paroles sacramentelles. Il n'y a de Dieu que Dieu seul, et Mahomet son élu. Mais avant la fin de sa confession, insaisissable comme un souffle, les pauvres mains qui s'étaient tendues venaient de retomber. Alors, celle dont on ne savait pas le nom rouvrit son Coran pour continuer de lire. Oh, la douceur rythmée, le bercement de ces prières d'islam, surtout lorsqu'elles sont dites par des lèvres de jeunes filles sous un voile épais. Jusqu'à une heure avancée de la nuit, les pieuses inconnues se succédèrent, entrant et se retirant sans bruit comme les ombres, mais il n'y eut point de cesse dans l'harmonieuse mélopée qui aide à mourir. Souvent, d'autres personnes aussi entraient sur la pointe du pied et se penchaient, sans mot dire, vers ce lit de mortel sommeil. C'était la mère, créature passive et bonne, toujours si effacée qu'elle comptait à peine. C'étaient les deux aïeules, mal résignées, muettes et presque dures dans la concentration de leur désespoir. Ou c'était le père, Mehmed Bey, visage bouleversé de douleur et peut-être de remords. Au fond, il l'adorait, sa fille Melek, et par son implacable observance des vieilles coutumes, il l'avait conduite à mourir. Ou bien encore, qui entrait en tremblant, c'était la pauvre mademoiselle Tardieu, l'ex-institutrice, mandée des derniers jours parce que Melek l'avait voulu, mais tolérée avec hostilité comme responsable et néfaste. Les yeux de l'enfant agonisante s'étaient refermés, à part un frémissement des mains quelquefois ou une crispation des lèvres. Elle ne donnait plus signe de vie. Chapitre 48. Environ 4 heures du matin. C'était maintenant Jenan qui veillait. Depuis un instant, la visiteuse voilée, dont la prière remplissait cette chambre de harem, forçait la voix au milieu du silence plus solennel, disait avec exaltation, comme si elle avait le sentiment que quelque chose se passait, quelque chose de suprême. Et Jenan, qui tenait toujours une des petites mains transparentes de Melek dans les siennes, sans s'apercevoir qu'elle devenait froide, sursauta de terreur parce qu'on lui frappait sur l'épaule. Deux petits coups d'avertissement avec une discrétion sinistre. Oh, l'atroce figure de vieille, jamais vue, qui venait de surgir là derrière, elle, entrée sans bruit par cette porte toujours ouverte. Une grande vieille, large de carrure, mais décharnée, livide, et qui, sans rien dire, lui faisait signe. « Allez-vous-en !» Elle avait dû longuement épier dans le couloir et puis, sûre avec son tact professionnel que son heure était venue, elle s'approchait pour commencer son rôle. « Non, non !» dit Jenan en se jetant sur la petite morte. « Non, pas encore. Je ne veux pas que vous l'emportiez. Non !» « Là, là, doucement !» dit la vieille femme en l'écartant avec autorité. « Je lui ferai point de mal !» Du reste, il n'y avait aucune méchanceté dans sa laideur, mais plutôt de la compassion morne et surtout une grande lassitude. Tant et tant de jolies fleurs fauchées dans les harems, tant elle avait dû en emporter, cette vieille aux bras robustes, cette laveuse de mortes, ainsi qu'on les appelle. Elle la prit à son cou comme une enfant malade, et la belle chevelure rousse, dénouée, s'épandit sur son horrible épaule. Deux de ses aides, d'autres vieilles praticiennes encore plus effrayantes, attendaient dans l'antichambre avec des lumières. Jenan et celle qui priait se mirent à suivre par les corridors et les vestibules plongés dans le froid silence, le groupe macabre qui s'en allait, se dirigeant vers l'escalier pour descendre. Ainsi, la petite Melek Sadia Saalet, à 20 ans et demi, mourut de la terreur d'être jetée une seconde fois dans les bras d'un maître imposé. L'escalier descendu, les vieilles avec leur fardeau arrivèrent à la porte d'une salle de rez-de-chaussée, dans les communs de cette antique demeure, une sorte d'office pavé de marbre, où il y avait au milieu une table en bois blanc, une cuve pleine d'eau chaude encore fumante, et un drap déplié sur un trépied. Dans un coin, un cercueil, un léger cercueil aux parois minces comme on les fait en Turquie. Et enfin, par terre, un châle ancien roulé autour d'un bâton, un de ces châles validés qui servent de drap mortuaire pour les riches. Toutes ces choses préparées bien à l'avance, car dans les pays d'islam, un ensevelissement doit marcher très vite. Quand les vieilles eurent étendu l'enfant sur la table, qui était courte, les beaux cheveux roux, toujours dénoués, descendirent jusque par terre. Avant de commencer leur besogne, elles firent à Djenan et à l'inconnu voilé un geste qui les congédiait. Celles-ci, d'ailleurs, se retiraient d'elles-mêmes pour attendre dehors. Et Zeynep, éveillée par quelque intuition de ce qui se passait, était venue se joindre à elle. Une Zeynep qui ne pleurait pas, mais qui était plus blanche que la morte, avec des yeux plus cernés de bleuâtre. Toutes les trois restèrent là, immobiles et glacées, suivant en l'esprit les faces de la toilette suprême, écoutant les bruits sinistres de l'eau qui ruisselait, des objets qui se déplaçaient dans cette salle sonore. Et quand ce fut fini, la grande vieille les appela. « Venez maintenant la voir !» Elle était blottie dans son étroit cercueil et tout enveloppée de blanc, sauf le visage, encore découvert pour recevoir les baisers d'adieu. On avait pu fermer complètement ses paupières ni sa bouche. Mais elle était si jeune et ses dents si blanches qu'elle demeurait quand même délicieusement jolie, avec une expression d'enfant, une sorte de demi-sourire douloureux. Alors on alla éveiller tout le monde pour venir l'embrasser, le père, la mère, les aïeuls, les vieux oncles rigides, qui depuis quelques jours ne l'étaient plus, les servantes, les esclaves. La grande maison s'emplit de lumière qui s'allumait, d'effarement, de pas précipités, de soupirs et de sanglots. Quand arriva cette vieille cadine de 1320, musulmane intransigeante s'il en fut, et ce matin, si exaspérée contre l'évolution nouvelle qui lui enlevait ses petites filles, justement, l'institutrice craintive, Mademoiselle Tardieu, était là, auprès du cercueil à genoux. Et les deux femmes se regardèrent une seconde en silence, l'une terrible, l'autre humble et épouvantée. « Allez-vous-en !» lui dit l'aïeul dans sa langue turque, en frémissant de haine. « Qu'est-ce donc qu'il vous reste à faire là, vous ? Votre œuvre est finie. Vous m'entendez, allez-vous-en !» Mais la pauvre fille, en reculant devant elle, la regardait avec tant de candeur et de désespoir dans les yeux pleins de larmes que la vieille cadine eut soudainement pitié. Sans doute comprit-elle en un éclair ce que depuis des années elle se refusait à admettre, que l'institutrice dans tout cela n'était qu'un instrument irresponsable au service du temps. Alors elle lui tendit les mains en lui criant « Oh pardon !» Et ces deux femmes, jusque-là si ennemies, pleurèrent à sanglots dans les bras l'une de l'autre. Des incompatibilités d'idées, de races et d'époques les avaient séparées longuement. Mais toutes deux étaient bonnes et maternelles, capables de tendresse et de spontané retour. Cependant, un peu de lueur blême à travers les vitres annonçait la fin de cette nuit de novembre. Djenan, donc, se souvenant qu'André monta chercher un bout de ruban bleu, comme c'était convenu, et, en levant l'autre signal, attacha celui-là au quadrillage de la même fenêtre. Chapitre 49 et suivant. Ce fut le valet de chambre qui vint regarder au lever du jour et remonta tout effaré vers Péra. « Mademoiselle Melek doit être morte, » dit-il à son maître en le réveillant. Elles ont mis un signal bleu que je viens de voir. » Il avait eu plus d'une fois l'occasion de parler à cette petite Mélec par quelques fentes de porte lorsqu'il venait faire les dangereuses commissions d'André. Même elle lui avait montré gentiment son visage en lui disant merci. Et pour lui, c'était Mademoiselle Mélec, tant il lui avait trouvé l'air jeune. André, informé une heure plus tard par Djenan qu'on l'emporterait à la mosquée vers midi, descendit à Kassim Pacha avant 11 heures. Il avait pris un fez et des vêtements d'homme du peuple pour être plus sûr qu'on ne le reconnaîtrait pas, car il voulait, à un moment donné, s'approcher beaucoup et essayer de remplir un pieux devoir d'islam envers sa petite amie. D'abord, il attendit à l'écart dans le cimetière voisin de la maison. Et bientôt, il vit sortir le léger cercueil, porté à l'épaule par des gens quelconques, ainsi que le veut l'usage en Turquie. Un vieux châle l'enveloppait exactement, un châle valité, à raies vertes et rouges et aux minutieux dessins de cachemire. Un petit voile blanc était posé dessus, du côté de la tête, pour indiquer que c'était une femme. Et innovation surprenante, il y avait aussi un modeste bouquet de roses épinglé au châle. Chez les Turcs, on se hâte bien plus que chez nous d'enterrer les morts, et on n'envoie point de lettre de faire part. Viens qui veut, les parents, les amis, chez qui la nouvelle s'est répandue, les voisins, les domestiques. Jamais de femmes dans ces cortèges improvisés, et surtout point de porteurs. Ce sont les passants qui en font l'office. Un beau soleil de novembre, une belle journée lumineuse et calme. Istanbul resplendissait là-bas et, prenant son grand air immuable au-dessus du léger brouillard d'automne qui enveloppait à ses pieds la corne d'or. Bien souvent, il passait d'une épaule à une autre le cercueil de Mélec, au gré des sens rencontrés en chemin et qui voulaient tous faire une action pieuse, en portant quelques minutes cette petite morte inconnue. Devant marchaient deux prêtres à turban vert. Une centaine d'hommes suivaient, des hommes de toute classe. Il était venu aussi des vieux derviches avec leurs bonnets de mage, qui psalmodiaient en route, à voix haute et lugubre, comme ces cris de loups les soirs d'hiver dans les bois. On se rendit à une antique mosquée, en dehors des maisons, presque à la campagne, dans un bas-fond tout de suite sauvage. La petite Mélec fut déposée sur les dalles de la cour, et les imams, en voix de fausset très douce, chantèrent les prières des morts. 10 minutes à peine, et on se remit en marche pour descendre vers le golfe, prendre ensuite des barques et gagner l'autre rive, les grands cimetières des Youb où serait sa définitive demeure. En approchant de la Corne d'Or, dans les quartiers bas où il y avait beaucoup de monde, le cortège se fit plus lent à cause de tous ceux qui voulurent en être. La petite Mélec fut portée là, à tour de rôle, par une quantité de bateliers ou de matelots. André, qui avait hésité jusqu'à cette heure, s'approcha enfin, rassuré par cette foule où il était comme perdu. Il toucha de la main le vieux châle validé, avança l'épaule et sentit le poids de sa petite amie s'y appuyer un peu, le temps de faire une vingtaine de pas avec elle vers la mer. Après, il s'éloigna pour tout à fait, de peur que son obstination à suivre ne fût remarquée. Chapitre 50. Une semaine plus tard, les deux qui restaient, Djenan et Zeyneb, l'appelèrent à Sultan Selim. Dans la toujours pareille petite maison, si humble, si cachée, si sombre, ils se retrouvèrent ensemble pour l'avant-dernière fois de leur vie, elle, toute noire et invisible, sous des voiles également épais, également baissés. Entre eux, il ne fut guère question que de celle qui était partie, celle qui était libérée, comme elle disait. Et André apprit tous les détails de sa fin. Il lui sembla que leurs voix n'avaient point de larmes sous les masques de gaz noir. Toutes les deux se montraient graves et apaisées. De la part de Zeynep, rien que de très normal dans ce détachement-là, car elle n'appartenait pour ainsi dire plus à ce monde. Mais Jenan l'étonnait d'être si tranquille. À un moment donné, croyant bien faire, il lui dit avec beaucoup de douceur affectueuse, « On m'a fait connaître Hamdi Bey ce dernier vendredi à Ildiz. Il est distingué, élégant et de jolie figure. » Mais elle coupa court, s'animant pour la première fois. « Si vous voulez bien, André, nous ne parlerons pas de cet homme. » Il apprit alors par Zeynep que dans la famille, si atterrée par la mort de Melek, on ne songeait plus à ce mariage pour le moment. C'était vrai qu'il avait rencontré Hamdi Bey et l'avait trouvée telle. Depuis lors, il s'efforçait même de se dire « Bien, je suis très heureux qu'il en soit ainsi, le mari de la chère petite amie. » Mais cela sonnait faux, car au contraire, il souffrait davantage de l'avoir vue, d'avoir constaté son charme extérieur et surtout sa jeunesse. Après les avoir quittés, lorsqu'il refit, comme tant d'autres fois, la si longue route entre cette maison et la sienne, Stamboul, plus que jamais, lui produisit l'effet d'une ville qui s'en va, qui piteusement s'occidentalise et plonge dans la banalité, l'agitation, la laideur. Après ses rues encore immobiles autour de Sultan Selim, dès qu'il atteignit les quartiers bas qui sont proches des ponts, il s'écœura au milieu du grouillement des foules qui de ce côté n'a point de cesse. Dans la boue, dans l'obscurité des ruelles étroites, dans le brouillard froid du soir, tous ces empressés qui vendaient ou achetaient mille pauvres choses pitoyables et d'immondes victuailles n'étaient plus des Turcs, mais un mélange de toutes les races levantines. Sauf le fez rouge qu'ils portaient encore, la moitié d'entre eux n'avait pas la dignité de garder le costume national et s'affublait de ces loques européennes, rebuts de nos grandes villes, qui se déversent ici à plein paquebot. Jamais aussi bien que cette fois, il n'avait aperçu les usines qui fumaient déjà de place en place, ni les grandes maisons bêtes, copies en plâtre de celles de nos faubourgs. « Oh, je m'obstine à voir Stamboul comme il n'est plus, se dit-il. Il s'écroule, il est fini. Maintenant, il faut faire une complaisante et continuelle sélection de ce qu'on y regarde, des coins que l'on y fréquente. » Sur la hauteur, les mosquées tiennent encore, mais tous les bas quartiers sont déjà minés par le progrès, qui arrive grand train avec sa misère, son alcool, sa désespérance et ses explosifs. Le mauvais souffle d'Occident a passé aussi sur la ville des califes. La voici désenchantée, dans le même sens que le seront bientôt toutes les femmes de ses harems. Mais ensuite, il songea, plus tristement encore. Après tout, qu'est-ce que ça peut me faire? Je ne suis déjà plus quelqu'un d'ici, moi. Il y a une date absolue qui va arriver très vite, celle du 30 novembre, et qui m'emmènera sans doute pour jamais. À part les humbles stèles blanches de Deljibé là-bas, dont l'avenir m'inquiétera encore, que m'importera tout le reste? Et moi-même, d'ailleurs, dans 5 ans, dans 10 ans, si l'on veut, que serais-je autre chose qu'un débris? La vie n'a pas de durée, et la mienne est déjà en arrière de ma route. Les choses de ce monde ne me regarderont bientôt plus. Le temps peut bien continuer sa course, à donner le vertige, emporter tout cet Orient que j'aimais, et toutes les beautés de Circassie, qui ont de grands yeux couleur de mer. Emporter toutes les races humaines et le monde entier, Le cosmos immense, mais qu'est-ce que ça me fera, puisque je ne le verrai pas, moi, qui est presque fini à présent et qui demain aura perdu la conscience d'être. À un certain moment, en revanche, il lui semblait que cette date du 30 novembre ne pourrait jamais arriver, tant il était chez lui, à Constantinople, ancré dans cette ville, et même ancré dans sa demeure où rien encore n'avait été dérangé pour le départ. Et en continuant de marcher parmi ces foules, tandis que s'allumaient d'innombrables lanternes, au milieu des cris, des appels, des marchandages en toutes les langues du Levant, il se sentait flotter à la dérive entre des impressions contradictoires.